From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake.
Diffusé depuis le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City, vous allez assister à la session générale de la prêtrise de la 186e conférence générale de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. La musique de cette session sera interprétée par un chœur composé d'étudiants de l'Institut de religion de Logan, en Utah. Dieter Uchtdorf, deuxième conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session.
Chers frères, nous vous souhaitons la bienvenue à la session générale de la prêtrise de la 186e conférence générale de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Thomas Monson, qui préside cette conférence, m'a demandé de diriger cette session. Cette réunion est transmise par satellite aux détenteurs de la prêtrise réunis en de nombreux endroits du monde. La musique de cette session sera interprétée par un chœur composé de détenteurs de la prêtrise inscrits à l'Institut de religion de Logan, en Utah, et sous la direction de Hallel Matthews et Eric Stauffer, avec Clay Christensen à l'orgue. Le chœur ouvrira cette réunion en chantant « In Hymns of Praise ». Ensuite, Stanley Ellis, des 70, fera la prière d'ouverture.
Thank you. Our dear Heavenly Father,
notre cher Père Céleste,
we love thee.
Nous t'aimons.
Thy plan, thy son, our Savior,
ton plan, ton Fils, notre Sauveur Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Père, nous sentons humbles par la confiance que tu as placée en nous, en nous permettant de détenir ta sainte prêtrise et d'en exercer l'autorité. Aide-nous, Père, s'il te plaît. Nous sommes enthousiastes d'être ensemble, réunis dans cette conférence, cette session de la prêtrise, pour être enseignés et guidés par nos dirigeants, première présidence et les 12 et les autres. S'il te plaît, déverse ton esprit sur nous afin que ceux qui vont nous enseigner puissent être guidés par l'esprit et que nous qui écoutions, nous puissions être aussi vivifiés par cet esprit afin que nous puissions tous comprendre, édifier et nous réjouir ensemble. Au nom de Jésus-Christ, amen.
Le chœur interprétera maintenant Merveilleux l'amour. Après le chant, nous entendrons Russell Nelson, président du Collège des 12 apôtres. Il sera suivi par Stephen Owen, président général des jeunes gens.
Il y a 6 mois, lors de la conférence générale d'octobre 2015, j'ai parlé aux sœurs de leur rôle de femme de Dieu. À présent, je souhaite vous parler à vous, frères, de votre rôle d'homme de Dieu. Dans mes voyages à travers le monde, je m'émerveille à la vue de la force et de la bonté pure des hommes et des jeunes hommes de cette Église. Il n'y a tout simplement aucun moyen de dénombrer les cœurs que vous avez guéris et les vies que vous avez édifiées. Merci. Dans mon dernier message de conférence, j'ai relaté mon expérience déchirante de chirurgien du cœur. Lorsqu'il y a de nombreuses années, je ne suis pas parvenu à sauver la vie de 2 petites sœurs. Avec la permission de leur père, je souhaiterais en dire un peu plus au sujet de leur famille. Une maladie cardiaque congénitale affectait 3 des enfants de Ruth et Jimmy Hatfield. Leur fils aîné, Jimmy Jr., était décédé sans qu'on ait posé de diagnostic catégorique. Je suis entré en scène lorsque les parents ont recherché de l'aide pour leurs 2 filles, Laurel Ann et sa petite sœur, Gaylene. J'ai eu le cœur brisé quand ces 2 petites filles sont mortes après leur opération. Comme on peut le comprendre, Ruth et Jimmy étaient spirituellement anéantis. Avec le temps, j'ai appris qu'ils nourrissaient une rancœur persistante à mon égard, à mon encontre et à l'égard de l'Église. Durant près de 60 ans, j'ai été hanté par cette situation et profondément peiné pour les Hatfield. J'ai essayé à plusieurs reprises de rétablir le contact avec eux sans succès. Puis, une nuit de mai l'an dernier, j'ai été réveillé par ces 2 petites filles qui se trouvent de l'autre côté du voile. Je ne pouvais ni les voir ni les entendre avec mes sens physiques, mais j'ai senti leur présence. J'ai spirituellement perçu leurs supplications. Leur message était clair et bref. Frère Nelson, nous ne sommes scellés à personne. Pouvez-vous nous aider? Peu de temps après, j'ai appris que leur mère était décédée, mais que leur père et leur petit frère étaient encore en vie. Encouragé par les supplications de Laura Anne et Gaylene, j'ai à nouveau tenté de prendre contact avec leur père, qui vivait, m'avait-on appris, avec son fils Sean. Cette fois-ci, ils ont bien voulu me rencontrer. Au mois de juin, je me suis littéralement agenouillé devant Jimmy, âgé maintenant de 88 ans, et me suis adressé à lui de cœur à cœur. Je lui ai fait part des supplications de ses filles, et je lui ai dit que je serais honoré d'accomplir les ordonnances de scellement pour sa famille. Je lui ai également expliqué que cela leur prendrait du temps, à lui et à son fils, pour être prêts et dignes d'entrer dans le temple, du fait que ni l'un ni l'autre n'avait reçu sa dotation. L'Esprit du Seigneur était palpable tout au long de cette rencontre. Et lorsque Jimmy et Sean ont tous deux accepté mon offre, j'ai éclaté de joie. Ils ont travaillé diligemment avec leur président de pieu, leur évêque et leur dirigeant de mission de paroisse, ainsi qu'avec de jeunes missionnaires et un couple de missionnaires d'âge mûr. Puis, il y a peu de temps, dans le temple de Payson, en Utah, j'ai eu l'immense privilège de sceller Ruth à Jimmy et leurs 4 enfants à eux. Wendy et moi avons pleuré tandis que nous participions à cette sublime expérience. De nombreux cœurs ont été guéris ce jour-là. Après réflexion, je me suis émerveillé devant ce que Jimmy et Sean avaient été disposés à faire. Ils sont devenus des héros pour moi. Si mon plus grand désir pouvait se réaliser, je souhaiterais que chaque homme et chaque jeune homme de cette Église puisse faire preuve du courage, de la force et de l'humilité de ce Père et de son Fils. Ils ont accepté de pardonner et d'abandonner de vieilles rancœurs et habitudes. Ils ont bien voulu se laisser guider par leurs dirigeants de prêtrise, afin que l'expiation de Jésus-Christ puisse les purifier et les magnifier. Ils ont tous deux été désireux de devenir un homme détenant dignement la prêtrise, selon le plus saint ordre de Dieu. Détenir signifie être en possession de quelque chose qui nous a été remis. C'est une responsabilité sacrée que de détenir la prêtrise, qui est le pouvoir, la puissance et l'autorité de Dieu. Réfléchissez à cela. La prêtrise qui nous est conférée est exactement le même pouvoir et la même autorité par lesquels Dieu a créé ce monde et d'autres innombrables, par lesquels il gouverne les cieux et la terre, exalte ses enfants obéissants. Récemment, Wendy et moi avons assisté à une réunion où l'organiste était calme et prêt à jouer le cantique d'ouverture. Ses yeux observaient la partition et ses doigts étaient placés sur les touches. Il a commencé à appuyer sur les touches, mais aucun son n'est sorti. J'ai chuchoté à Wendy, « Il n'est pas branché ». Je me suis dit que quelque chose avait dû couper le circuit d'alimentation électrique de cet orgue. Frère, de la même manière, je crains que trop d'hommes qui ont reçu l'autorité de la prêtrise n'aient pas le pouvoir de la prêtrise. Parce que le circuit d'alimentation de ce pouvoir a été bloqué par des péchés tels que la paresse, la malhonnêteté, l'orgueil, l'immoralité ou les préoccupations du monde. Je crains que trop de détenteurs de la prêtrise aient fait peu ou n'aient rien fait pour développer leur capacité d'accéder au pouvoir des cieux. Je m'inquiète pour tous ceux qui sont impurs dans leurs pensées, leurs sentiments ou leurs actions, ou qui rabaissent leurs femmes ou leurs enfants, se coupant ainsi du pouvoir de la prêtrise. J'ai peur que trop d'entre eux aient cédé leur libre arbitre à l'adversaire et qu'ils ne disent par leur conduite « Je me soucie davantage de satisfaire mes désirs que de détenir le pouvoir du Sauveur de bénir les autres. » J'ai peur, mes frères, que certains d'entre nous ne s'éveillent un jour mesurant ce que signifie réellement le pouvoir de la prêtrise et ne soient confrontés au profond regret d'avoir passé bien plus de temps à chercher à exercer du pouvoir sur les autres ou dans leur travail qu'à apprendre à utiliser pleinement le pouvoir de Dieu. George Albert Smith a enseigné que nous ne sommes pas ici-bas pour gaspiller les heures de notre vie et entrer ensuite dans une sphère d'exaltation, mais que nous sommes ici pour nous qualifier, jour après jour, pour les responsabilités que notre Père Céleste attend que nous remplissions après cette vie. Pourquoi un homme gâcherait-il sa vie et se contenterait-il du plat de lentilles d'Ésaü alors que la possibilité lui a été donnée de recevoir toutes les bénédictions d'Abraham? Je supplie ardemment chacun de nous de vivre à la hauteur de ces privilèges de détenteurs de la prêtrise. Un jour prochain, seuls les hommes qui auront pris leur prêtrise au sérieux, en cherchant diligemment à être instruits par le Seigneur lui-même, seront en mesure de bénir, guider, protéger, fortifier et guérir les autres. Seul un homme qui aura payé le prix du pouvoir de la prêtrise sera capable d'accomplir des miracles dans la vie des personnes qu'il aime et de protéger son mariage et sa famille, maintenant et pour l'éternité. Quel est le prix à payer pour acquérir ce pouvoir? Le doyen des apôtres du Sauveur, Pierre, ce même Pierre qui, accompagné de Jacques et Jean, a conféré la prêtrise de Melchizedek à Joseph Smith et Oliver Cowdery, a mentionné les qualités que nous devrions rechercher pour devenir participant de la nature divine. Il a nommé la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel, la charité et la diligence. Et n'oublions pas l'humilité. Alors je demande, comment les membres de notre famille, nos amis ou nos collègues évalueraient-ils la manière dont vous et moi cultivons ces dons, ainsi que d'autres dons spirituels? Plus nous cultiverons ces qualités, plus notre pouvoir de la prêtrise grandira. De quelle autre façon pouvons-nous accroître notre pouvoir de la prêtrise? Nous devons prier du fond du cœur. Une récitation polie de nos activités passées à venir, ponctuée de quelques demandes de bénédiction, ne peut constituer le genre de communication avec Dieu qui nous apporte un pouvoir durable. Êtes-vous disposé à prier pour savoir comment prier pour obtenir davantage de pouvoir? Le Seigneur vous l'enseignera. Êtes-vous disposé à sonder les Écritures et à vous faire un festin des paroles du Christ, à étudier avec ferveur de manière à acquérir plus de pouvoir? Si vous voulez voir fondre le cœur de votre femme, faites en sorte qu'elle vous trouve sur Internet en train d'étudier la doctrine du Christ ou de lire les Écritures. Êtes-vous disposé à adorer Dieu dans le temple régulièrement? Le Seigneur aime donner son propre enseignement dans sa sainte maison. Imaginez comme il serait heureux si vous lui demandiez de vous enseigner les clés, l'autorité et le pouvoir de la prêtrise, tandis que vous accomplissez les ordonnances de la prêtrise de Melchisédek dans le temple. Pensez à l'accroissement de pouvoir de la prêtrise que vous pourriez recevoir. Êtes-vous disposé à suivre l'exemple de service d'autrui du président Manson? Durant des décennies, il s'est déplacé en suivant les incitations de l'esprit pour arriver sur le pas de la porte d'une personne qui lui disait « Comment saviez-vous que c'était l'anniversaire de la mort de notre fille ?» Ou bien « Comment avez-vous su que c'était mon anniversaire ?» Et si vous désirez réellement davantage de pouvoir de la prêtrise, vous chérirez votre femme et prendrez soin d'elle, l'embrassant elle et ses conseils. À présent, si tout cela vous semble excessif, veuillez considérer comme nos relations avec notre femme, nos enfants, et nos collègues de travail seraient différentes si nous étions aussi préoccupés par l'obtention du pouvoir de la prêtrise que nous le sommes par notre succès professionnel ou la hausse du solde de notre compte en banque. Si nous nous présentons humblement devant le Seigneur et lui demandons de nous instruire, il nous montrera comment améliorer notre accès à son pouvoir. En ces derniers jours, nous savons qu'il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Peut-être que l'un de ces lieux divers sera notre foyer, où des tremblements de terre émotionnels, financiers ou spirituels se produiront peut-être. Le pouvoir de la prêtrise peut calmer la mer et réparer les fractures terrestres. Il peut aussi calmer les esprits et réparer les fractures du cœur de nos êtres chers. Sommes-nous disposés à prier, jeûner, étudier, chercher, adorer Dieu et servir comme des hommes de Dieu afin de pouvoir obtenir ce genre de pouvoir de la prêtrise? Parce que deux petites filles avaient tant hâte d'être scellées à leur famille, leur père et leurs frères ont été disposés à payer le prix pour détenir la prêtrise de Melchisédek. Mes chers frères, une responsabilité sacrée nous a été conférée, l'autorité de Dieu de bénir les autres. Puisse chacun de nous s'élever et devenir l'homme de Dieu auquel il a été préordonné, disposé à détenir vaillamment la prêtrise de Dieu et désireux de payer le prix requis, quel qu'il soit, pour accroître son pouvoir dans la prêtrise. Avec ce pouvoir, nous pouvons contribuer à préparer le monde à la seconde venue de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est son Église, dirigée aujourd'hui par son prophète, le président Monson, que j'aime profondément et que je soutiens. J'en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen.
Lorsque j'avais 12 ans, mon père m'a emmené chasser dans les montagnes. Nous nous sommes levés à 3 heures du matin, avons scellé nos chevaux et avons parcouru les pentes boisées de la montagne dans une obscurité totale. Bien qu'aimant beaucoup chasser avec mon père, j'étais un peu inquiet. Je ne m'étais jamais rendu dans ces montagnes auparavant, et je ne voyais pas le sentier, ni quoi que ce soit d'autre. La seule chose que je parvenais à distinguer, c'était la petite lampe de poche que mon père portait et qui projetait une faible lumière sur les pins devant nous. Que se passerait-il si mon cheval glissait et trébuchait? Mon père verrait-il ce qui se passait? Mais la pensée suivante m'a réconforté. Papa sait où il va. Si je le suis, tout ira bien. Et tout s'est bien passé. Le soleil a fini par se lever et nous avons passé une merveilleuse journée ensemble. Sur le chemin du retour, mon père m'a indiqué du doigt un sommet abrupt et majestueux qui se détachait au milieu des autres. « C'est le Windy Ridge », m'a-t-il dit. « C'est le meilleur endroit pour chasser. » J'ai alors tout de suite su que je reviendrai et que je gravirai le Windy Ridge un jour. Au cours des années, j'entendais régulièrement mon père parler du Windy Ridge, mais nous n'y sommes jamais retournés. Jusqu'à un jour, 20 ans plus tard, je téléphone à mon père et que je lui dise « Allons au Windy Ridge ». Une fois de plus, nous avons scellé nos chevaux et avons gravi la montagne. J'étais désormais un cavalier expérimenté d'une 30aine d'années et je me suis surpris à ressentir la même inquiétude que celle que j'avais ressentie lorsque j'avais 12 ans. Mais mon père connaissait le chemin et je l'ai suivi. Nous sommes finalement arrivés au sommet du Windy Ridge. La vue était éblouissante et un sentiment m'a alors envahi. J'éprouvais le désir de revenir, non pas pour moi cette fois, mais pour ma femme et mes enfants. Je souhaitais qu'ils vivent l'expérience que j'avais vécue. Au fil des ans, j'ai eu de nombreuses occasions de conduire mes fils et d'autres jeunes gens au sommet de montagne, tout comme mon père l'avait fait pour moi. Ces expériences m'ont amené à méditer sur ce que signifie diriger et suivre. Si je vous demandais qui est le plus grand dirigeant qui ait jamais vécu, que répondriez-vous? La réponse, bien sûr, est Jésus-Christ. Il a donné l'exemple parfait de toutes les qualités d'un dirigeant. Mais si je vous demandais qui est le plus grand disciple qui ait jamais vécu, la réponse ne serait-elle pas à nouveau Jésus-Christ? Il est le plus grand des dirigeants parce qu'il est le plus grand des disciples. Il suit son Père à la perfection et en toutes choses. Le monde enseigne que les dirigeants doivent être puissants. Le Seigneur enseigne qu'ils doivent être doux. Les dirigeants du monde obtiennent du pouvoir et de l'influence grâce à leurs talents, leurs compétences et leurs richesses. Ceux qui dirigent à la manière du Christ obtiennent du pouvoir et de l'influence par la persuasion, par la longanimité, par la gentillesse et la douceur, et par l'amour sincère. Aux yeux de Dieu, les plus grands dirigeants ont toujours été les plus grands disciples. Je vais vous raconter deux expériences vécues au cours d'échanges que j'ai eus avec les jeunes gens de l'Église et qui m'ont enseigné comment diriger et comment suivre. Ma femme et moi avons récemment assisté à une réunion de Sainte-Seine dans une paroisse éloignée de la nôtre. Juste avant le début de la réunion, un jeune homme m'a abordé et m'a demandé si je pouvais aider à distribuer la Sainte-Seine. Je lui ai dit que je serais très heureux de le faire. Je me suis assis avec les autres diacres et ai demandé à celui qui était assis à côté de moi ce que je devais faire. Il m'a indiqué que je devais m'occuper du fond de la salle de culte, de la partie centrale qui serait en face et qu'ensemble nous avancerions vers l'avant de la salle. Je lui ai répondu que je n'avais plus fait cela depuis bien longtemps. Il m'a répondu « Ce n'est pas grave, ça va bien se passer, j'ai ressenti la même chose la première fois. » Par la suite, le plus jeune diacre du collège, qui avait été ordonné quelques semaines auparavant, a donné un discours en réunion de Sainte-Seine. À la fin de la réunion, les autres diacres du collège se sont rassemblés autour de lui pour lui dire combien ils étaient fiers de lui. En bavardant avec eux, j'ai appris que chaque semaine, les membres de tous les collèges de la prêtrise d'Aaron, de cette paroisse, contactent d'autres jeunes gens et les invitent à rejoindre leur collège. Ces jeunes hommes sont tous de grands dirigeants. Et il y a bien sûr d'excellents détenteurs de la prêtrise de Melchisédek, parents et adultes qui, en coulisses, les aident dans leurs devoirs. Ces adultes attentionnés ne voient pas seulement les jeunes gens tels qu'ils sont maintenant, mais tels qu'ils peuvent devenir. Lorsqu'ils parlent avec les jeunes gens ou à propos d'eux, ils ne s'attardent pas sur leurs défauts. Ils mettent, au contraire, l'accent sur les grandes qualités de dirigeants dont ils font preuve. Jeunes gens, c'est ainsi que le Seigneur vous voit. Je vous invite à vous voir de la sorte également. Il y aura des moments dans votre vie où vous serez appelé à diriger, et d'autres où l'on attendra de vous que vous suiviez. Mais mon message pour vous aujourd'hui est que, quel que soit votre appel, vous êtes toujours un dirigeant et toujours un disciple. La direction est une expression de la condition de disciple. C'est simplement le fait d'aider les autres à aller au Christ, comme le font les vrais disciples. Si vous vous efforcez d'être un disciple du Christ, vous pouvez alors enseigner aux autres comment le suivre, et vous pouvez être un dirigeant. Votre capacité à diriger ne provient pas de votre responsabilité, de vos compétences, ni même d'un talent pour s'exprimer en public. Elle provient de votre engagement à suivre Jésus-Christ. Elle provient de votre désir d'être un meilleur disciple de la justice, comme l'a dit Abraham. Si vous y parvenez, et même si tout n'est pas parfait mais que vous essayez, alors vous êtes un dirigeant. Un jour, en Nouvelle-Zélande, je visitais une mère seule avec ses trois adolescents. Le fils aîné avait 18 ans et avait reçu la prêtrise de Melchisédek le dimanche précédent. Je lui ai demandé s'il avait déjà eu l'occasion d'exercer sa prêtrise. Il m'a répondu qu'il n'était pas sûr de savoir ce que cela signifiait. Je lui ai dit qu'il détenait désormais l'autorité de donner une bénédiction de la prêtrise de réconfort ou de guérison. J'ai regardé sa mère qui n'avait plus eu de détenteur de la prêtrise de Melchisédek à ses côtés depuis de nombreuses années. « Je crois que ce serait magnifique si tu donnais une bénédiction à ta mère », ai-je poursuivi. Il m'a répondu qu'il ne savait pas comment faire. Je lui ai expliqué qu'il pouvait poser ses mains sur la tête de sa mère, prononcer son nom, déclarer qu'il lui donnait une bénédiction par l'autorité de la prêtrise de Melchisédek et dire tout ce que l'Esprit mettrait dans son esprit et dans son cœur, puis enfin conclure au nom de Jésus-Christ. Le lendemain, j'ai reçu un email de ce jeune homme. Il disait entre autres, « Ce soir, j'ai donné une bénédiction à ma mère. Je me suis senti très nerveux et incompétent, alors j'ai prié constamment pour m'assurer d'avoir le Saint-Esprit avec moi, car je ne pouvais pas donner de bénédiction sans lui. Une fois que j'ai eu commencé, je n'ai plus pensé ni à moi, ni à mes faiblesses. » Je ne m'attendais pas à ressentir une telle puissance spirituelle et émotionnelle. Après coup, l'esprit d'amour m'a touché de manière si forte que je n'ai pas pu retenir mes émotions. J'ai alors pris ma mère dans mes bras et j'ai pleuré comme un bébé. Maintenant encore, tandis que je vous écris, je ressens si fort le Saint-Esprit que j'ai le désir de ne plus jamais pécher. J'aime cet évangile. » Fin de citation. N'est-ce pas inspirant de voir comment un jeune homme, en apparence tout à fait ordinaire, peut accomplir de grandes choses par le service dans la prêtrise, et ce même s'il ne se sent pas à la hauteur? J'ai récemment appris que ce jeune ancien avait reçu son appel en mission et qu'il arrivera au centre de formation des missionnaires le mois prochain. Je crois qu'il conduira de nombreuses âmes au Christ, car il a appris comment le suivre dans son service dans la prêtrise, en commençant dans son propre foyer, où son exemple a une profonde influence sur son frère de 14 ans. Mes frères, que nous en soyons conscients ou non, des gens nous observent, les membres de notre famille, nos amis ou même des inconnus. En tant que détenteurs de la prêtrise, il ne suffit pas que nous allions au Christ. Notre devoir, à présent, consiste à inviter tout le monde à aller au Christ. Nous ne pouvons pas nous satisfaire de recevoir des bénédictions spirituelles pour nous-mêmes. Nous devons amener les gens que nous aimons à recevoir ces mêmes bénédictions. Et en tant que disciples de Jésus-Christ, nous devons aimer tous les hommes. Le commandement du Sauveur donné à Pierre s'adresse également à nous. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Parfois, le sentier vous paraîtra sombre, mais continuez à suivre le Sauveur. Il connaît le chemin. En fait, il est le chemin. Plus vous allez au Christ avec ferveur, plus votre désir d'aider les autres à vivre ce que vous avez vécu grandira. Ce sentiment s'appelle également la charité, que le Père a accordé à tous ceux qui sont de vrais disciples de son Fils Jésus-Christ. Vous vous rendrez compte alors qu'en suivant le Christ, vous conduirez également les autres avec vous vers lui. Car comme l'a dit le président Monson, si nous suivons cet homme de Galilée, notre Seigneur Jésus-Christ, l'influence que nous aurons se fera sentir et sera bonne, où que nous soyons et quel que soit notre appel. Je rends témoignage que c'est la véritable Église du Christ. Nous sommes dirigés par un prophète de Dieu, le président Monson, un grand dirigeant qui est également un véritable disciple du Sauveur. Au nom de Jésus-Christ, amen.
Au signal du directeur de la musique, l'assemblée se lèvera et se joindra au chœur pour chanter « Ô viens, toi, roi des rois ». J'aurai ensuite l'honneur de m'adresser à vous. Après mon discours, nous aurons le plaisir d'entendre Henri Eyring, premier conseiller dans la première présidence.
have been blessed by wonderful messages by.
Nous avons été bénis par de merveilleux messages, celui du président Nelson. Et quelle merveilleuse assemblée de détenteurs de la prêtrise. Il y a de nombreuses années, je me trouvais dans le temple de Francfort en Allemagne, lorsque j'ai aperçu un couple de personnes âgées qui se tenaient la main. La prévenance, la tendresse et l'affection dont elles faisaient preuve l'une pour l'autre m'ont réchauffé le cœur. Je ne suis pas tout à fait sûr de savoir pourquoi cette scène m'a touché de la sorte. C'était peut-être la douceur de l'amour que ces deux êtres éprouvaient l'un pour l'autre, comme un symbole fascinant de persévérance et d'engagement. Il était évident que ces deux personnes vivaient depuis longtemps ensemble et que leur affection mutuelle était toujours vivante et forte. Je pense qu'une autre raison pour laquelle cette scène touchante m'a autant marqué, c'est qu'elle contraste avec certaines attitudes de notre époque. Dans tant de sociétés à travers le monde, tout semble être jetable. Dès que quelque chose commence à s'user ou à ne plus fonctionner, ou même simplement quand nous nous enlaçons, nous le jetons et le remplaçons par une nouvelle version, par quelque chose de nouveau, de mieux ou de plus brillant. Nous agissons de la sorte avec nos téléphones portables, nos vêtements, nos voitures et même de façon tragique avec nos relations. Si le fait de désencombrer notre vie des choses matérielles dont nous n'avons plus besoin peut s'avérer utile, lorsqu'il s'agit de remplacer des choses éternelles, comme notre mariage, notre famille et nos valeurs, l'attitude de remplacer l'original par quelque chose de moderne peut conduire à de profonds remords. Je suis reconnaissant d'appartenir à une Église qui attache de la valeur au mariage et à la famille. Les membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours sont connus dans le monde entier pour produire les meilleurs mariages et les meilleures familles. Je crois que cela est dû, en partie, aux précieuses vérités rétablies par l'intermédiaire de Joseph Smith, le prophète, énonçant que le mariage et la famille sont censés être éternels. La famille n'est pas seulement une disposition de vie commode visant à rendre les choses plus faciles sur terre et pour être ensuite rejetée lorsque nous serons aux cieux. Bien au contraire, elle constitue l'ordre des cieux. Le mariage et la famille sont le reflet d'un modèle céleste et une imitation de la famille éternelle de Dieu. Mais les relations familiales et les mariages forts ne proviennent pas du simple fait que nous sommes membres de l'Église. Ils demandent de la conscience et de la volonté. La doctrine de la famille éternelle doit nous inciter à consacrer nos meilleurs efforts, à sauver et enrichir notre mariage et notre famille. J'admire et je félicite les gens qui ont préservé et nourri ces relations éternelles essentielles. Aujourd'hui, j'aimerais mettre à l'honneur les gens qui sauvent. Au fil des ans, j'ai accompli l'ordonnance du scellement pour de nombreux couples, pleins d'espoir. Je n'ai jamais encore rencontré de jeunes mariés qui, se regardant de part et d'autre de l'autel, pensaient qu'ils finiraient par divorcer et avoir le cœur brisé. Malheureusement, certains le font. D'une façon ou d'une autre, avec le temps qui passe et alors que l'attrait romantique n'est plus le même, certains cessent progressivement de penser au bonheur de l'autre et commencent à se rendre compte des petits défauts. Dans ce contexte, certains sont séduits par la conclusion tragique que leur femme n'est pas assez intelligente, pas assez jolie, pas assez drôle ou pas assez jeune. Ils commencent alors à penser que cela justifie de commencer à voir ailleurs. Frères, si cette description vous correspond d'une manière ou d'une autre, je vous avertis que vous êtes sur un chemin qui mène à des mariages détruits, des foyers anéantis et des cœurs brisés. Je vous supplie d'arrêter dès maintenant, de faire demi-tour et de revenir sur le chemin sûr de l'intégrité et de la fidélité aux alliances. Cela s'applique, bien évidemment, également à nos chères sœurs. Je vais désormais dire un mot à nos frères célibataires qui tombent dans le piège de penser qu'ils doivent d'abord trouver la femme parfaite avant de fréquenter quelqu'un de façon sérieuse ou de se marier. Mes très chers frères, pensez-vous vraiment que si la femme parfaite existait, elle s'intéresserait à vous? Dans le plan de bonheur de Dieu, nous n'avons pas à rechercher quelqu'un de parfait, mais quelqu'un avec qui nous pourrons tout au long de la vie unir nos efforts pour créer une relation aimante, durable et toujours plus parfaite. Voilà l'objectif. Frères, les personnes qui sauvent leur mariage comprennent que cette quête requiert du temps, de la patience et, par-dessus tout, les bénédictions de l'expiation de Jésus-Christ. Cela nécessite d'être gentil, de ne pas être envieux, de ne pas chercher son intérêt, de ne pas s'irriter, de ne pas soupçonner le mal et de se réjouir de la vérité. En d'autres termes, cela requiert la charité, l'amour pur du Christ. Tout cela ne se fera pas en un instant. Les bons mariages sont édifiés brique après brique, jour après jour et tout au long de la vie. Et c'est une bonne nouvelle. Parce que, quel que soit l'état de votre relation aujourd'hui, qu'elle soit stable ou mouvementée, si vous ajoutez des galets de gentillesse, de compassion, d'écoute, de sacrifice, de compréhension et d'altruisme, alors une magnifique pyramide finira par commencer à s'édifier. Si vous avez l'impression que cela prend une éternité, rappelez-vous, les mariages heureux sont faits pour durer une éternité. Alors ne vous lassez pas de bien faire, car vous posez les fondements d'un excellent mariage. Et c'est des petites choses que sort ce qui est grand. Cela viendra certainement progressivement, mais cela n'a pas à être triste pour autant. En fait, au risque d'enfoncer des portes ouvertes, je pense pouvoir affirmer que le divorce survient rarement lorsque mari et femme sont heureux. Alors, soyez heureux. Et frères, surprenez votre femme en faisant des choses qui la rendent heureuse. Les gens qui sauvent leur mariage choisissent d'être heureux. Et bien que certaines formes de dépression chronique requièrent effectivement un traitement adapté, j'aime ces paroles de sagesse d'Abraham Lincoln. La plupart des gens sont aussi heureux qu'ils décident de l'être. Cela correspond bien au passage scripturaire suivant. Cherchez et vous trouverez. Si nous recherchons des défauts chez notre conjoint ou des sources de frustration au sein de notre mariage, nous les trouverons certainement, parce que nous en avons tous. À l'inverse, si nous recherchons le positif, nous le trouverons également, à coup sûr, parce que nous avons tous beaucoup de qualités. Les gens qui sauvent leur mariage retirent les mauvaises herbes et arrosent les fleurs. Ils mettent en avant les petits actes de gentillesse qui suscitent des sentiments d'amour. Les gens qui sauvent leur mariage sauvent également les générations suivantes. Frères, rappelez-vous pourquoi vous êtes tombés amoureux. Efforcez-vous chaque jour de rendre votre mariage plus fort et plus heureux. Mes chers amis, faisons vraiment de notre mieux pour être comptés parmi ces âmes heureuses et saintes qui sauvent leur mariage. Aujourd'hui, j'aimerais aussi mettre à l'honneur les gens qui sauvent leur relation familiale. Chaque famille a besoin d'être sauvée. Aussi merveilleux qu'il soit de savoir que cette Église est connue pour ses familles fortes, il peut nous arriver d'avoir le sentiment que cela doit s'appliquer à toutes les familles de l'Église, sauf à la nôtre. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas de famille parfaite. Chaque famille a des moments de malaise. Comme lorsque vos parents vous demandent de prendre un selfie d'eux. Ou lorsque votre grand-tante vous assure que vous êtes encore célibataire parce que vous êtes trop difficile. Ou lorsque votre beau-frère est convaincu que ses opinions politiques correspondent à l'Évangile. Ou encore lorsque votre père veut faire un portrait de famille, où chacun doit se déguiser en un personnage de son film préféré, et que c'est vous qui vous retrouverez avec le costume de Chewbacca. Les familles sont comme ça. Nous partageons le même patrimoine génétique, mais nous sommes différents. Notre esprit est unique. Nous sommes influencés de manière différente par nos expériences. Et chacun de nous finit par devenir quelqu'un de différent. Au lieu de chercher à forcer les autres à se fondre dans le moule que nous avons conçu, nous pouvons au contraire nous réjouir de ces différences et les apprécier pour la richesse et les surprises permanentes qu'elles apportent à notre vie. Il arrive néanmoins que des membres de notre famille fassent des choses ou des choix irréfléchis, blessants et même immoraux. Que devons-nous faire dans ce cas? Il n'existe pas de solution miracle qui s'appliquerait à toutes les situations. Les gens qui sauvent leur famille y réussissent parce qu'ils tiennent conseil avec leur conjoint et leur famille, cherchent à connaître la volonté du Seigneur et écoutent les inspirations du Saint-Esprit. Ils savent que ce qui est bon pour une famille ne l'est pas nécessairement pour une autre. Cependant, il y a quelque chose que nous pouvons faire et qui fonctionne dans toutes les situations. Dans le livre de Mormon, il est fait mention d'un peuple qui avait découvert le secret du bonheur. Pendant des générations, il n'y avait pas de discorde. Et assurément, il ne pouvait y avoir de peuple plus heureux, parmi tout le peuple qui avait été créé par la main de Dieu. Comment ces gens ont-ils réussi? À cause de l'amour de Dieu qui demeurait dans le cœur du peuple. Quels que soient les problèmes que rencontre votre famille, quoi que vous deviez faire pour y remédier, la solution est la charité, l'amour pur du Christ. Sans cet amour, même les familles parfaites en apparence ont des difficultés. Avec cet amour, même les familles qui ont de grands problèmes réussissent. La charité ne périt jamais. C'est vrai pour le sauvetage du mariage et également pour le sauvetage de la famille. Le grand ennemi de la charité est l'orgueil. L'orgueil est l'une des principales raisons qui explique les difficultés conjugales et familiales. L'orgueil est coléreux, méchant et envieux. L'orgueilleux exagère ses propres forces et ignore les qualités des autres. L'orgueilleux est égoïste et irritable. L'orgueilleux voit de mauvaises intentions là où il n'y en a pas et cache ses faiblesses derrière des apparences. L'orgueilleux est cynique, pessimiste, fâché et impatient. De fait, si la charité est l'amour pur du Christ, l'orgueil, lui, caractérise en tout point Satan. L'orgueil est une faiblesse humaine courante, mais il ne fait pas partie de notre héritage spirituel et n'a pas sa place parmi les détenteurs de la prêtrise de Dieu. Mes frères, la vie est courte. Les regrets peuvent nous suivre longtemps. Et certains auront même des répercussions éternelles. La façon dont vous traitez votre femme, vos enfants, vos parents ou vos frères et sœurs peut avoir une influence sur les générations futures. Quel héritage voulez-vous laisser à votre postérité? Un héritage de vengeance, de dureté, de représailles, de colère ou de peur? Ou bien un héritage d'amour, d'humilité, de pardon, de compassion et de progression spirituelle? Nous devons tous nous souvenir que le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Pour le bien de vos relations familiales, pour le bien-être de votre âme, soyez s'il vous plaît miséricordieux, car la miséricorde triomphe du jugement. Mettez de côté l'orgueil. Demandez sincèrement pardon à vos enfants, à votre femme, à votre famille ou à vos amis. N'est pas une marque de faiblesse, mais de force. Vous importe-t-il plus d'avoir raison que d'instaurer un climat d'enseignement, de guérison et d'amour? Bâtissez des ponts, ne les détruisez pas. Même lorsque vous n'êtes pas en tort, et peut-être tout particulièrement lorsque vous ne l'êtes pas, laissez l'amour vaincre l'orgueil. Si vous le faites, quelle que soit l'adversité à laquelle vous faites face, et du fait de l'amour de Dieu qui habitera votre cœur, la discorde cessera. Ces principes concernant le salut des relations s'appliquent à chacun de nous, que l'on soit marié, divorcé, veuf ou célibataire. Nous pouvons tous être des sauveurs de familles fortes. Mes frères, dans nos efforts pour sauver notre mariage, notre famille, et en toute chose, suivons l'exemple de celui qui nous sauve. Le Sauveur s'est donné en rançon pour nous. Jésus-Christ est notre Maître. Son œuvre est également la nôtre. C'est une œuvre de salut, et elle commence dans notre foyer. Dans le plan du salut, l'amour est désintéressé et recherche le bien-être d'autrui. C'est l'amour que notre Père Céleste nous porte. Si nous reproduisons l'amour du Sauveur, il nous bénira et fera aboutir nos justes efforts pour sauver notre mariage et fortifier notre famille. Que le Seigneur vous bénisse dans vos efforts justes et inlassables pour faire partie de ceux qui sauvent. C'est là ma prière et ma bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Je suis reconnaissant d'être avec vous ce soir à la réunion générale de la prêtrise de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. C'est un grand moment dans l'histoire de l'Église. En 1834, il y a 182 ans, à Kirtland, Ohio, toute la prêtrise était appelée à se réunir dans une école en rondin de 4 mètres sur 4. On rapporte qu'à l'occasion de cette réunion, Joseph Smith, le prophète, a dit « Vous n'en savez pas plus concernant la destinée de cette Église et de ce royaume qu'un petit enfant sur le genou de sa mère. Vous ne la comprenez pas. Vous ne voyez qu'une petite poignée de détenteurs de la prêtrise ici ce soir. Mais l'Église remplira l'Amérique du Nord et du Sud. Elle remplira le monde. » Des millions de détenteurs de la prêtrise dans plus de 110 pays sont réunis dans cette session. Peut-être Joseph le prophète a-t-il vu cette époque et l'avenir merveilleux qui est devant nous. Je vais tenter ce soir de décrire cet avenir et ce que nous devons faire pour faire partie du plan de bonheur que notre Père Céleste nous a préparé. Avant de naître, nous avons vécu en famille avec notre Père Céleste exalté éternel. Il a ordonné un plan qui nous permet d'avancer, de progresser, afin de devenir semblable à lui. Il l'a fait par amour pour nous. L'objectif du plan était de nous donner la possibilité de vivre à jamais, comme notre Père Céleste vit. Ce plan d'évangile nous offrait une vie dans la condition mortelle, au cours de laquelle nous serions mis à l'épreuve. La promesse nous a été faite que, grâce à l'expiation de Jésus-Christ, si nous obéissions aux lois et aux ordonnances de l'évangile, nous aurions la vie éternelle, le plus grand de tous ces dons. La vie éternelle est le genre de vie qu'a Dieu, notre Père Céleste. Dieu a dit que son dessein est de réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. Le grand dessein de chaque détenteur de la prêtrise est donc d'aider les gens à parvenir à la vie éternelle. Chaque effort de la prêtrise et chaque ordonnance de la prêtrise sont conçus pour aider les enfants de notre Père Céleste à être transformés grâce à l'expiation de Jésus-Christ afin de devenir membres de cellules familiales rendues parfaites. Il s'ensuit que la grande œuvre de tout homme est de croire en l'Évangile, de respecter les commandements et de créer et de perfectionner une cellule familiale éternelle et d'aider les autres à faire de même. Puisque cela est vrai, tout ce que nous faisons devrait avoir comme centre et objectif le mariage éternel, le mariage céleste. Cela signifie que nous devons nous efforcer d'être scellés à un conjoint pour l'éternité dans le temple de Dieu. Nous devons également encourager les autres à contracter, à respecter les alliances qui unissent un mari et sa femme et leurs enfants à eux dans cette vie et dans le monde à venir. Pourquoi cela doit-il avoir autant d'importance pour chacun d'entre nous, jeune ou vieux, diacre ou grand prêtre, fils ou père? C'est parce que notre obligation de détenteur de la prêtrise est de placer notre famille et celle des autres qui nous entourent au centre de nos préoccupations. Toutes les décisions importantes doivent être prises en fonction de l'effet qu'elles produiront sur une famille, afin qu'elles se qualifient pour vivre avec notre Père Céleste et Jésus-Christ. Rien n'est plus important que cela dans le service de la prêtrise. Je vais vous dire ce que cela peut signifier pour un diacre qui écoute ce soir en tant que membre d'une famille et membre d'un collège. Dans sa famille, il se peut que la prière en famille ne se fasse pas régulièrement ou que la soirée familiale ne soit pas tenue fréquemment. Si son père, conscient de ses obligations, appelle la famille à se réunir pour la prière ou l'étude des Écritures, le diacre peut se dépêcher à venir et participer avec le sourire. Il peut encourager ses frères et sœurs à y participer et les féliciter lorsqu'ils le font. Il peut demander une bénédiction à son père à la rentrée des classes ou à un autre moment où il en a besoin. Il se peut que son père ne soit pas aussi fidèle, mais le simple désir de son cœur de vivre ses expériences attirera les pouvoirs du ciel en faveur de son entourage, du fait de sa foi. Les siens rechercheront la vie de famille que ce diacre veut de tout son cœur. L'instructeur dans la prêtrise d'Aaron peut trouver dans sa tâche d'enseignement au foyer une occasion d'aider le Seigneur à transformer la vie d'une famille. Le Seigneur l'a laissé entendre dans les Doctrines d'Alliance. Le devoir de l'instructeur est de toujours veiller sur les membres de l'Église, d'être avec eux et de les fortifier, de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'iniquité dans l'Église, ni de dureté réciproque, ni de mensonge, de calomnie ou de médisance. De même, la responsabilité du prêtre dans la prêtrise d'Aaron est la suivante. Le devoir du prêtre est de prêcher, enseigner, expliquer, exhorter, baptiser et bénir la Sainte Cène, de rendre visite à chaque membre et de l'exhorter à prier haute voix et en secret et à remplir tous ses devoirs de famille. Vous vous demandez peut-être comme je l'ai fait lorsque j'étais un jeune instructeur et un jeune prêtre, comment être à la hauteur de ces responsabilités? Je ne savais jamais trop comment je pouvais exhorter d'une manière qui fasse avancer une famille vers la vie éternelle sans offenser ou sembler critiquer. J'ai appris que la seule exhortation qui change le cœur est celle qui vient du Saint-Esprit. Cela se produit plus souvent lorsque nous témoignons du Sauveur, qui était et est le membre parfait de la famille. Si nous nous concentrons sur notre amour pour lui, l'harmonie et la paix augmenteront dans les foyers que nous visitons. Le Saint-Esprit nous assistera dans notre service auprès des familles. Le jeune détenteur de la prêtrise peut, par la manière dont il prie, par la manière dont il parle et par la manière dont il encourage les membres de la famille, susciter dans leur esprit et dans leur cœur l'influence et l'exemple du Sauveur. Un dirigeant de la prêtrise sage m'a montré qu'il comprend de cela. Il a demandé à mon jeune fils de prendre en main une visite d'enseignement au foyer. Il a dit que la famille risquait de s'opposer à ses exhortations, mais qu'il pensait que l'enseignement et le témoignage simple d'un garçon avaient plus de chances de pénétrer le cœur endurci de ces gens. Que peut faire le jeune ancien pour contribuer à la création de familles éternelles? Peut-être est-il sur le point de partir en mission. Il peut prier de tout son cœur afin de pouvoir trouver, instruire et baptiser des familles. Je me souviens encore d'un beau jeune homme et de sa délicieuse épouse, et ainsi que de leurs deux jolies petites filles, assis un jour avec mon compagnon missionnaire et moi. Le Saint-Esprit leur a témoigné que l'évangile de Jésus-Christ avait été rétabli. Ils croyaient assez pour demander si nous pourrions donner une bénédiction aux deux petites filles, comme ils l'avaient vu faire lors de nos réunions de Sainte-Seine. Ils avaient déjà le désir que leurs enfants soient bénis, mais ils ne comprenaient pas encore que les véritables bénédictions ne pourraient leur être accessibles que dans les temples de Dieu, après qu'ils auraient contracté des alliances. Cela me fait encore mal de penser à ce couple et à ces deux petites filles, probablement âgées maintenant, qui n'ont pas la promesse d'une famille éternelle. Leurs parents avaient au moins une vague idée des bénédictions qui pouvaient leur être accessibles. J'espère que d'une façon ou d'une autre, quelque part, ils peuvent encore avoir la possibilité de se qualifier pour être une famille éternelle. D'autres anciens partant en mission vivront l'expérience plus heureuse que mon fils a vécue. Matthieu, son collègue et lui ont trouvé une veuve avec 8 enfants, vivant dans la pauvreté. Ils voulaient pour eux ce que vous voulez, une famille éternelle. Cela paraissait impossible aux yeux de mon fils, ou du moins improbable pour le moment. Je me suis rendu dans cette petite ville des années après que mon fils a baptisé la veuve, et elle m'a proposé de me présenter ses enfants. J'ai dû attendre un moment parce que ses enfants, ainsi que ses nombreux petits-enfants, venaient de différentes paroisses de la région. L'un de ses fils servait fidèlement dans un épiscopat, et chacun de ses enfants avait reçu ses alliances du temple et était scellé en une famille éternelle. Quand j'ai pris congé de cette chère sœur, elle m'a passé le bras autour de la taille et m'a dit, elle était toute petite, elle peut à peine arriver à ma taille, et elle m'a dit, s'il vous plaît, dites à Matteo de revenir au Chili avant que je meure. Grâce à ses anciens fidèles, elle attendait joyeusement le plus grand de tous les dons de Dieu. Il y a des choses qu'un ancien, sur retour de mission, doit faire pour être fidèle à son engagement de rechercher la vie éternelle pour lui-même et pour ses êtres chers. Il n'y a pas d'engagement plus important dans le temps de l'éternité que le mariage. Vous avez entendu de sages conseils sur la priorité à accorder au mariage dans les premiers plans pour après la mission. Le serviteur fidèle de la prêtrise le fera avec sagesse. En envisageant le mariage, il verra qu'il est en train de choisir le père ou la mère de ses enfants et l'héritage qu'ils auront. Il fera le choix par une recherche sincère et un examen de la question dans la prière. Il s'assurera que la personne qu'il épouse a les mêmes idéaux que lui quant aux enfants, les mêmes convictions quant à l'objectif du Seigneur pour le mariage, et que c'est une personne à qui il est disposé à confier le bonheur de ses enfants. N. Eldon Tanner a donné le sage conseil suivant. Les parents que vous devez honorer plus que tout autre sont les parents de vos futurs enfants. Ces enfants ont le droit d'avoir les meilleurs parents que vous puissiez leur donner, des parents purs. La pureté sera votre protection et celle de vos enfants. Vous leur devez cette bénédiction. Ce soir, il y a des maris et des pères qui écoutent. Que pouvez-vous faire? J'espère que le désir d'opérer les changements nécessaires afin que vous et votre famille puissiez un jour vivre dans le royaume céleste a grandi en vous. En tant que père détenteur de la prêtrise, avec votre femme à vos côtés, vous pouvez toucher le cœur de chacun des membres de votre famille et les inciter à attendre ce jour avec hâte. Vous assisterez à vos réunions de Sainte-Seine avec votre famille. Vous ferez des soirées familiales au cours desquelles le Saint-Esprit pourra se manifester. Vous prierez avec votre femme et vos enfants et vous vous préparerez à emmener votre famille au temple. Vous avancerez avec eux sur le chemin qui mène à une famille éternelle. Vous traiterez votre femme et vos enfants de la manière dont notre Père Céleste vous a traité. Vous suivrez l'exemple et les indications du Sauveur pour diriger votre famille à sa manière. Aucun pouvoir, aucune influence ne peuvent ou ne devraient être exercés en vertu de la prêtrise autrement que par la persuasion, par la longanimité, par la gentillesse, par la douceur et par l'amour sincère. Par la bonté et la connaissance pure qui épanouiront considérablement l'âme sans hypocrisie et sans fausseté, et réprimandant avec rigueur en temps opportun sous l'inspiration du Saint-Esprit et faisant preuve ensuite d'un redoublement d'amour envers celui que tu as réprimandé, de peur qu'il ne te considère comme son ennemi. Le Seigneur a dit aux pères détenteurs de la prêtrise le genre de mari qu'ils doivent être. Il dit, tu aimeras ta femme de tout ton cœur et tu t'attacheras à elle et à personne d'autre. Lorsque le Seigneur parle au mari et à la femme, il commande, tu ne commettras point d'adultère ni ne feras rien de semblable. Pour les jeunes, le Seigneur établit la norme. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur, et honore ton père et ta mère. Lorsque le Seigneur parle à tous les membres de la famille, il leur conseille de s'aimer et de se soutenir les uns les autres. Il nous demande de nous efforcer de perfectionner la vie de chaque membre de la famille, de fortifier les faibles, ramener les êtres chers qui s'égarent et de nous réjouir du renouvellement de leurs forces spirituelles. Le Seigneur nous a également demandé de faire tout notre possible pour aider nos ancêtres décédés à être avec nous dans notre foyer éternel. Le chef de groupe des grands prêtres qui a œuvré diligemment pour aider les gens à trouver leurs ancêtres et à apporter les noms au temple secourt les personnes décédées. Il y aura des remerciements dans le monde à venir pour ces grands prêtres et pour les gens qui offrent les ordonnances parce qu'ils n'ont pas oublié leur famille qui attend dans le monde des esprits. Les prophètes ont dit, la partie la plus importante de l'œuvre du Seigneur que vous accomplirez jamais se fera au sein de votre foyer. L'enseignement au foyer, le travail de l'épiscopat et les autres devoirs dans l'Église sont tous importants, mais le plus important est ce qui se fait chez vous. Dans votre foyer, dans votre service de la prêtrise, ce sont les petits actes qui auront le plus de valeur. Ceux qui nous aident, nous et nos êtres chers, à travailler en vue de la vie éternelle, ces actes peuvent paraître petits dans cette vie, mais ils apporteront des bienfaits éternels dans l'au-delà. En aidant fidèlement les enfants de notre Père Céleste à retourner auprès de lui, nous nous qualifions pour les paroles d'accueil que nous voulons tous tant entendre lorsque nous aurons terminé notre ministère terrestre. Ces paroles sont « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu étais fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. » Entre dans la joie de ton maître. Parmi ces beaucoup se trouvent les promesses d'une postérité infinie. Je prie pour que nous qualifions tous et aidions les autres à se qualifier pour cette bénédiction divine dans leur foyer de notre Père et de son Fils Jésus-Christ. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
Frères, nous vous remercions de votre présence ce soir. Nous remercions également le chœur de la prêtrise de l'Institut de Logan pour la musique inspirante et pour les discours inspirants qui ont été prononcés. Et toutes les personnes qui ont contribué d'une façon ou d'une autre à la préparation de cette réunion. Le dernier orateur de cette session sera Thomas Monson, notre prophète bien-aimé. Après son discours, le chœur terminera cette réunion en chantant « Sauveur d'Israël ». Ensuite, Craig Cardone, des 70, fera la prière de clôture.
My beloved brethren,
mes frères bien-aimés, je prie pour que l'Esprit guide mes remarques ce soir. Quelque chose nous unit tous. Nous avons été chargés de détenir la prêtrise de Dieu et d'agir en son nom. Nous avons reçu une responsabilité sacrée. Beaucoup est attendu de nous. Nous lisons au verset 36 de la section 121 des Doctrines et Alliances que les droits de la prêtrise sont inséparablement liés au pouvoir du ciel. Quel don merveilleux nous a été fait. Nous avons la responsabilité de protéger cette prêtrise et d'être dignes de toutes les magnifiques bénédictions que notre Père Céleste a en réserve pour nous et pour les autres à travers nous. Où que vous alliez, votre prêtrise vous accompagne. Vous tenez-vous en des lieux saints avant que vous ne vous mettiez, vous ou votre prêtrise, en danger en vous aventurant dans des lieux ou en prenant part à des activités qui ne sont pas dignes de vous, de cette prêtrise. Arrêtez-vous pour réfléchir aux conséquences. N'oubliez pas qui vous êtes et ce que Dieu veut que vous deveniez. Vous êtes un enfant de promesse. Vous êtes un homme de pouvoir. Vous êtes un fils de Dieu. Ce don précieux du pouvoir de la prêtrise s'accompagne non seulement de responsabilités solennelles, mais aussi de bénédictions spéciales pour nous-mêmes et pour les autres. Puissions-nous, en quelque lieu que nous soyons, être toujours dignes de faire appel à ce pouvoir, car nous ne pouvons jamais savoir quand le besoin ou l'occasion se présentera. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, un de mes amis était détaché dans le Pacifique Sud quand son avion a été abattu au-dessus de l'océan. Les autres membres de l'équipage et lui ont réussi à sauter en parachute de l'avion en flammes, à gonfler les canots de sauvetage et à s'y cramponner pendant 3 jours. Le 3e jour, ils ont aperçu ce qu'ils savaient être un navire de sauvetage. Il est passé sans les voir. Le lendemain, il est repassé sans les voir. Ils ont commencé à sombrer dans le désespoir quand ils ont compris que c'était le dernier jour que le navire croiserait dans cette zone. Alors, le Saint-Esprit a dit à mon ami, je cite, « Tu as la prêtrise. Commande au sauveteur de revenir vous chercher. » Il a suivi l'inspiration. Au nom de Jésus-Christ et par le pouvoir de la prêtrise, faites demi-tour et revenez nous récupérer. » Fin de citation. Quelques minutes plus tard, le navire était près d'eux et on les hissait sur le pont. Dans cette situation extrême, un détenteur de la prêtrise fidèle et digne a exercé cette prêtrise et cela a été une bénédiction pour lui et pour d'autres personnes. Puissions-nous décider immédiatement de toujours être préparés pour les moments de besoin, de service, de bénédiction que nous rencontrerons. Au terme de cette réunion de générale de prêtrise, je vous dis que vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Puissions-nous être toujours dignes de ces louanges divines. C'est là ma prière. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.
Oh,
Heavenly Father,
notre cher Père Céleste, tu vois tes enfants réunis dans toute la terre qui détiennent ta prêtrise. Ce soir, nous avons été enseignés richement par tes prophètes et tes serviteurs, par ton esprit, malgré nos faiblesses. Et en toute humilité, nous te prions que nous nous accorderas de la gentillesse, de la patience, que nous pardonneras nos péchés. Car nous savons qu'en toi, tout est possible. À mesure que ton œuvre progresse sur cette terre, puissions-nous être des instruments dans tes mains pour accomplir ton œuvre. Veuille nous bénir, Père, que nous puissions entendre ta voix et suivre les incitations de l'Esprit au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.